Donc Manoëlle Martin, je suis vice-présidente de la région des Hauts-de-France, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la vie étudiante et de l'orientation tout au long de la scolarité, donc du collège jusqu'à l'enseignement supérieur.
L'enseignement supérieur, on a plutôt coutume de dire qu'il est du ressort de l'État. En quoi la région apporte une contribution, un développement de ce que fait l'État en région ?
Alors en fait, la région est chef de file et c'est toute la rencontre que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est chef de file au travers d'un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. L'objectif, c'est quoi ? C'est de mettre autour de la table tous les acteurs. Elle n'est pas financeur dans les établissements, mais on y met tous les acteurs, publics, privés, les écoles, les universités, l'entreprise, tous les acteurs qui potentiellement travaillent ensemble autour de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et donc, pour animer tous ces acteurs, c'est la région qui s'en occupe. Et c'était aujourd'hui le point d'orgue que l'on avait, c'est-à-dire qu'on a voté un schéma. Dans ce schéma, on se donne des objectifs, on se donne une feuille de route. Ce schéma a été voté il y a 2 ans. Donc on a fait ce matin le bilan de notre feuille de route des 2 dernières années qui viennent de s'écouler. Et cet après-midi, on construit la feuille de route des 2 prochaines années. Et on se rend compte que sur les 2 précédentes années qui viennent de s'écouler, les priorités ont un peu évolué. Notamment, je pense à la santé mentale des étudiants, où il y a 2 ans, on n'en parlait pas du tout. Et demain, ça fait partie des sujets sur lesquels on doit travailler collectivement. Alors vous me dites comment vous travaillez collectivement, chacun dans son domaine. En fait, tout le but de ce matin, c'était de faire partager les bonnes initiatives. On a eu la présentation d'une école, l'UTC de Compiègne, qui est une école d'ingénieurs, qui nous a fait partager la mobilisation de 7 étudiants qu'ils ont appelés des étudiants phares, pour qu'ils puissent donner la lumière aux autres étudiants. Et ce sont ces 7 étudiants qui sont référents jeunes hommes, jeunes filles, dans toutes les langues. Ils parlent à eux 7 10 langues. Ils sont dans toutes les formations, des premières années aux plus anciennes. Et donc, pour donner toutes les orientations, ou en tout cas, d'étudiant à étudiant, comment on fait lorsqu'on traverse une difficulté. Un rendez-vous médical, un choix dans une étude, dans les études, un choix de stage, voilà, et donc c'est ces étudiants. Et donc ce matin, c'était tout l'objectif de la matinée, sur différentes thématiques, on a partagé ces bonnes pratiques qui se font, et il y a des bonnes pratiques et des thématiques qui marchent très très bien, puis d'autres qui ont plus de mal à fonctionner, donc c'est celles-là qu'il faut que l'on amplifie maintenant.
Alors c'est vrai qu'un plan de 5 ans ou 7 ans, enfin voilà, suppose que il y a dans l'intervalle peut-être une possibilité de le réadapter à une vie notamment technologique qui évolue très vite.
Complètement, et ça a été l'objet de ce matin. À la région des Hauts-de-France, on porte une politique transversale très forte, la politique REV3. Troisième révolution industrielle, c'est comment on consomme moins, mais de manière plus efficace, dans les matériaux, dans la construction, dans nos habitudes de transport, voilà, le développement durable à l'échelle de notre région que nous avons appelé REV3. Et dans ce cadre-là, on avait créé un groupe qui s'appelait UNIREF3, les universités sur cette thématique-là. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est une thématique qui est très peu connue des étudiants, qui est très peu connue des enseignants, des chercheurs, alors qu'elle est très prégnante dans la vie quotidienne de tous. Un jeune aujourd'hui, lorsqu'il prend un nouveau job, il regarde que fait l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fabrique comme produit. Et si ça ne correspond pas à l'idée qu'il en a, aujourd'hui, il est capable de dire non, alors qu'il y a quelques années, le jeune aurait pris dans tous les cas l'emploi. Et donc aujourd'hui, ça fait partie justement d'une politique que l'on ne mettait pas en avant il y a 2 ans, lorsqu'on a fait le schéma, et que nous allons mettre en avant cet après-midi. Donc on va créer un atelier propre sur la thématique REV3 pour essayer de manière transversale de regarder tout ce qui touche cette thématique et tout ce qui fait qu'on peut sensibiliser. Moins d'avions, plus de trains, le réflexe d'un jeune, mais pas obligatoirement une politique portée et assumée. Et c'est toute la volonté de la région des Hauts-de-France d'assumer cette troisième révolution industrielle. Nous devons changer notre région, nous devons changer l'image de notre région pour demain, pour nos enfants, voire même aujourd'hui nos petits-enfants. Et donc c'est toute l'action qu'on doit mettre en place.
Alors je vais vous montrer une image. En fait, cette image, elle prend un peu le bilan de ce que les grandes universités dans le monde arrivent à publier. Et donc, quand on dit publication, on peut parler aussi de brevets. Est-ce que la région Hauts-de-France a aussi pour ambition d'aider les laboratoires de cette région à justement mettre en avant leurs publications et bien sûr aussi valoriser les universités qui les accueillent?
Alors évidemment, nous avons la vocation à tirer les universités et les publications et les chercheurs vers le haut. Je serais curieuse de connaître sur votre image les investissements qui sont mis derrière. Je vais donner un exemple pour lequel on se bat aujourd'hui. On a la chance d'avoir l'Institut Pasteur de Lille, à Lille, qui est présent, que l'on compare à l'Institut Pasteur que l'on connaît tous, qui est à Paris, qui n'est pas le même. Ils sont deux entités complètement différentes. Les budgets de l'État à destination de ces deux instituts pasteurs sont du simple au triple pour Paris. Et pourtant, quand on regarde le nombre de chercheurs et le nombre de publications, quand on fait des ratios, c'est quasiment identique. Mais l'histoire a fait que, naturellement, l'État est venu accompagner de manière plus importante l'Institut Pasteur Paris. Et donc, nous travaillons aussi à faire en sorte que notre région des Hauts-de-France soit attractive par ces leviers-là. Par le fait que, si nous voulons continuer à avoir l'Institut Pasteur de Lille force de proposition comme elle l'est aujourd'hui, avec de nombreuses publications qui sont reconnues dans le monde entier, nous devons aussi faire en sorte qu'elle soit accompagnée de la même hauteur que ses collègues. Alors en période difficile budgétaire, c'est compliqué. Parce que ce que vous donnez de plus à l'un, vous le prenez à l'autre. Il n'y a pas de l'argent qui sort comme cela, comme l'on souhaiterait. Mais on doit imaginer des rééquilibrages. Et la région des Hauts-de-France, à de nombreuses reprises, s'est retrouvée certainement en queue de peloton dans ces rééquilibrages, dans ces aides. Et c'est tout le travail que nous devons faire comme élus et que nous demande de porter Xavier Bertrand, c'est de faire en sorte que, finalement, on ne vienne pas par défaut dans la région des Hauts-de-France, mais qu'on y vienne par envie. On y vienne parce que c'est une région qui est attractive, on y vienne parce qu'elle a des centres de recherche forts, parce que ces universités, ce qui est le cas, on a eu plusieurs universités de la région sur le plan international primées, mais qu'elles soient encore plus primées, encore plus reconnues. Et c'est à ce moment-là où on pourra dire, nous élus, on a fait notre job parce qu'on a fait en sorte que notre région soit plus connue, plus attractive que ce qu'elle ne l'était auparavant.
Donc dans notre région, il y a dans les zones universitaires des lieux un peu hybrides, région, État, je pense à l'Iliade par exemple.
Oui, il y a... Alors, vous donnez un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ce sont des lieux où on aurait envie de faire en sorte qu'ils soient plus connus, qu'ils soient portés collectivement. C'est aussi, pour raccrocher à notre journée d'aujourd'hui, notre comité d'orientation stratégique de ce schéma de l'enseignement supérieur, c'est tout l'objectif que l'on a, c'est-à-dire faire région, faire chasser en meute, si je peux le dire différemment, on le comprend bien. C'est, nous devons tous travailler ensemble à l'heure en plus où les restrictions budgétaires sont là. Si nous travaillons en concurrence, en permanence, je ne nie pas en disant ça le contexte économique. Évidemment qu'il y a des entreprises qui sont concurrentes et il faut qu'elles continuent à être concurrentes. Là où je dis il est important, c'est de travailler collectivement État, région, mais aussi France Université et donc Hauts-de-France Université en ce qui nous concerne, mais aussi la conférence des grandes écoles qui ne parle pas obligatoirement avec Hauts-de-France Université, de faire en sorte que tous nous soyons dans le même objectif de montrer que la région des Hauts-de-France est une région riche, pleine de surprises et qu'elle a tout un intérêt énorme à être connu, mais surtout à venir y enseigner, à venir y apprendre, et on y travaille collectivement. Là où c'est plus difficile, c'est que dans l'enseignement supérieur, on est confronté aussi à des étudiants qui viennent et qui repartent, qui passent. On n'a jamais autant formé d'ingénieurs aujourd'hui en région Hauts-de-France que les années précédentes, et pourtant, on en cherche plein dans la région, parce qu'ils ne restent pas dans notre région, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils peuvent être attirés par leur région d'origine. Donc, ils retournent là, vous le savez, des écoles d'ingénieurs, c'est un concours. Donc, automatiquement, ils arrivent là où ils sont, puis après, ils retournent là où ils veulent. J'ai échangé avec plusieurs d'entre eux. Certains arrivant du sud de la France me disent « il y a la météo, on sait sûr qu'on ne va pas changer la météo de la région des Hauts-de-France, quoique le réchauffement climatique, on ne sait jamais ». Mais surtout, et c'est pour ça que nous travaillons avec les entreprises, c'est que certains me disent « les entreprises payent mieux ailleurs ». Et donc, comment on fait pour travailler avec les entreprises, pour faire en sorte peut-être qu'il y ait un contrat qui les lie avec des étudiants, pour faire en sorte que finalement le lien se fasse plus facilement et que le jeune, en tout cas sa première expérience, il ait envie de la continuer. Et je reste persuadée que s'il a envie de continuer sa première expérience dans la région des Hauts-de-France, il aura envie de s'y installer par la suite, parce que ça, tout le monde le reconnaît, on a un accueil formidable en région des Hauts-de-France.
Alors, c'est peut-être pas votre compétence, mais quand vous dites que les entreprises payent mieux ailleurs, c'est vrai qu'il y a des entreprises aussi qui viennent en région, justement parce qu'on paye peut-être moins en région et qu'elles ont peut-être davantage d'aide, notamment de la région.
Alors oui, c'est pas ma compétence, mais effectivement, on en est bien conscient, et vous avez entièrement raison. La seule chose, c'est qu'il faut trouver tous les moyens, tous les leviers. L'histoire de la région des Hauts-de-France, elle est forte. Terre industrielle, beaucoup d'entreprises de textile qui ont fermé il y a de nombreuses années, de la réindustrialisation permanente, on le voit encore aujourd'hui avec des annonces nationales qui annonce des fermetures d'entreprises industrielles sur notre territoire. Et donc, c'est une région qui en perpétuelle transformation et qui doit une entreprise qui a annoncé sa fermeture alors qu'elle a été aidée de manière publique très forte. Donc oui, notre région, elle doit montrer cette transformation et elle doit passer le cap de cette transformation. Après, on n'est rien sans les entreprises non plus. Donc l'idée, c'est pas de leur jeter la pierre. C'est vraiment de faire en sorte que, toujours pareil, qu'on fasse vraiment région, qu'on travaille ensemble. Si les étudiants trouvent que les entreprises ne payent pas assez, ben, travailler avec des entreprises qui pourraient se le permettre pour essayer de garder quelques étudiants, puis pour ensuite faire boule de neige. Ou à l'inverse, si les étudiants ou si les entreprises trouvent qu'elles n'ont pas assez d'ingénieurs, ben, travailler avec les écoles d'ingénieurs pour essayer d'en former plus, peut-être sur des thématiques plus précises qui sont attendues. On doit collectivement réfléchir à tout cet équilibre d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation aussi, parce qu'on est on a la chance d'être une région qui est plutôt innovante. Il y a de nombreux sujets qui sont nés dans la région des Hauts-de-France. On me dit, alors j'ai jamais eu le temps de le vérifier, mais que l'intelligence artificielle, par exemple, est née dans la région des Hauts-de-France. Eh bien, valorisons-le, faisons-le savoir, faisons en sorte d'être fiers de tout ce qui est déjà réalisé dans notre région.
Donc, dans notre région, enfin, je rencontre beaucoup des doctorants. Il y en a énormément et qui font des recherches. Comment on pourrait mieux les faire rayonner, on va dire, parce qu'ils ne sont pas forcément beaucoup payés pour faire leur travail de recherche. Et par contre, ils sont assez recherchés, sinon précieux, pour le monde de l'entreprise, du moins les entreprises qui veulent innover. Donc on pourrait peut-être faire un focus, peut-être une rencontre un jour entre les entreprises et les doctorants, enfin leur labo de recherche, bien sûr.
Alors c'est vrai, vous avez entièrement raison, on a en fait des doctorants, des chercheurs qui sont plongés dans leur recherche et qui souvent, quand ils en parlent, parlent avec des acronymes qui sont incompréhensibles du grand public. Et c'est toute la difficulté que moi j'ai eue au début en arrivant dans cette délégation, c'était de comprendre ce qu'ils faisaient. Et je leur ai dit, mais essayez de mettre des mots simples. Vous travaillez d'abord sur quelle thématique ? Santé, agriculture, voilà, déjà orienté. Puis ensuite, quand on descend un peu plus dans le détail, quel domaine de la santé ? Puis ensuite, bon, on y arrive en discutant avec eux. Et je pense qu'on doit communiquer de manière plus facile sur l'extérieur de cette manière-là. Moi, j'y travaille beaucoup et la région des Hauts-de-France est là pour faciliter cette promotion. On a aussi, la région a mis en place, il y a plusieurs années maintenant, un dispositif où nous accompagnons pendant 3 ans 150 thèses qui sont portées par des étudiants. Donc nous finançons les étudiants pendant 3 ans. Et donc ceux-là, on doit encore plus les mettre en avant. C'est vraiment la région qui les finance. Alors avec l'entreprise, l'entreprise. Hein, on est moitié-moitié pour l'étudiant. L'entreprise participe aussi au financement de l'étudiant. Encore avant-hier, un exemple d'un jeune qui est appelé sur une autre région, qui veut lui donner plus que ce que nous donnons région Hauts-de-France, parce qu'ils sont très intéressés par la recherche que ce jeune fait. Aujourd'hui, moi je le sais, je vous en parle de ce jeune, qui sait ce qu'il fait et quelle richesse on a au travers de cette jeunesse dans la région des Hauts-de-France. Si déjà même j'arrivais à valoriser les 150 jeunes que nous accompagnons dans la région, ce serait déjà énorme. Et vous verriez des sujets, il y en a un qui fait une recherche sur la météo et sur les problématiques d'inondation que nous avons eues dans la région des Hauts-de-France, mais ça peut intéresser la terre entière. Il y a des choses qui sont fabuleuses, on en a beaucoup sur la médecine, on imagine bien, mais on a aussi un jeune que j'avais rencontré et qui maintenant a pu mettre en construction le modèle qu'il avait réfléchi, c'était la tête sur les trottinettes. Le fait que le bas de la trottinette puisse faire le tour complet du guidon. Bon ben voilà, ça c'est un jeune de l'UTC de Compiègne qui avait développé ça au travers d'une petite imprimante 3D et puis qui finalement a pu inventer ça. On a des tonnes et des tonnes et des tonnes des idées comme ça, j'en aurais plein, enfin des exemples, pardon, comme cela, j'en aurais plein. Mais aujourd'hui, nous devons travailler à faire connaître cette richesse que nous avons dans la région des Hauts-de-France.
Alors, avant d'être doctorant, il faut être étudiant. Et pour certains, c'est plus compliqué que d'autres. Pour des jeunes, ils ont besoin d'appui. Autrefois, il existait, financé par la région, un dispositif de sorte de tutorat d'étudiants qui aidaient les générations d'en dessous, on va dire. Est-ce que ça existe encore ?
Ça existe encore, tout à fait. Il y a deux niveaux de tutorat. Il y a le niveau cordée de la réussite, c'est-à-dire le lycéen qui se pose des questions sur son avenir enseignement supérieur. Et donc, ce sont des étudiants qui viennent travailler avec les lycéens avec l'idée de la cordée, c'est-à-dire de les porter vers le haut. Donc ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, il y a entre étudiants, effectivement, le fait d'avoir des binômes, voire même des fois des équipes, c'est pas obligatoirement des binômes, sur qui fait quoi dans le monde de l'enseignement supérieur, et surtout de permettre aux jeunes de se rendre compte qu'ils ont le droit de se tromper. Un jeune qui fait un choix par Parcoursup, qui des fois n'a pas obligatoirement le choix qu'il voulait, et qu'il se rend compte que dans la formation dans laquelle il est, ça ne lui plaît pas, eh bien il a le droit de pouvoir échanger avec d'autres jeunes, de se poser la question, mais surtout de remettre en cause son orientation. C'est pas, ça n'a rien de choquant, ça n'a rien de frustrant non plus, parce qu'il sait que ça ne lui plaît pas, et il ne va pas aller faire plusieurs années d'études d'un sujet qui ne lui plaît pas. Aujourd'hui, le dispositif de l'éducation nationale ne permet pas de l'enseignement supérieur, ne permet pas toujours cette flexibilité-là, nous y travaillons pour permettre finalement à avoir des reconversions, peut-être sur le premier trimestre, de changement d'études, de changement d'orientation. Et cela fait partie aussi du travail que nous faisons avec ces étudiants qui s'engagent pour essayer d'accompagner les autres étudiants. Et donc, eux voient les difficultés auxquelles les étudiants sont confrontés. Bien souvent, il y a évidemment, dans certaines communes, des difficultés de logement. Il peut y avoir des difficultés financières, évidemment, ou de santé. Ça, ce sont des sujets que l'on connaît bien. Mais il y a aussi des mal-êtres qui sont liés au fait d'être dans une formation qui ne plaît pas. Et ça, on doit pouvoir le résoudre. On ne doit pas laisser le jeune dans la formation qui ne lui plaît pas comme cela trop longtemps.
Voilà, eh bien, pour conclure, 2025 et la suite, optimiste ?
Il faut rester optimiste, surtout que la jeunesse est assez formidable en la matière. Elle a toujours des idées en permanence et donc on arrive à évoluer. Mais nous devons continuer à travailler ensemble, collectivement, et c'est tout l'objet de la journée du travail de cet après-midi. C'est ce que je vous disais, ce matin, dans ce schéma, nous avons fait le bilan des deux dernières années. Cet après-midi, nous nous tournons vers l'avenir et nous tournons vers l'avenir avec 200 participants qui viennent parler justement de cet avenir de schéma régional de l'enseignement supérieur. Et donc j'en suis très heureuse parce que ça veut donc dire qu'on va pouvoir se projeter et être encore plus optimiste pour demain.